Paco Charleri est né en Martinique il y a quelques décennies. Trompettiste et percussionniste, il a assisté et participé à l'accouchement et au premier cri de Magma, travaillé avec une multitude de musiciens, quitté et retrouvé les Caraïbes pour devenir un musicien serein et libre. Conversation avec Paco Charleri au Festival du Zest, déplacé à Villandreau en août 2005. Paco Charleri, quand on lit votre biographie, on peut penser qu'il y a trois choses qui ont contribué à ce que vous deveniez musicien. Première chose, la famille, oui. La bibliothèque, oui. Et ensuite le service militaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette trinité ?
Ben oui, la famille d'abord par mon père qui était trompettiste, qui m'a déjà donné le goût de la musique et de la trompette d'abord. Effectivement, la bibliothèque américaine, c'était un lieu où on pouvait emprunter des albums, des vinyles de jazz. Il y avait des revues de jazz, une revue américaine qui s'appelait Downbeat. Ça me mettait au courant des choses qui existent et je découvrais le jazz aussi en pouvant emprunter des albums parce que c'était difficile à l'époque de l'acheter. Et puis le service militaire aussi, parce que quand je suis venu à Paris, je prenais des cours au conservatoire de trompette, des cours de trompette au conservatoire, pardon. Et mon professeur m'a dit de faire un devancement d'appel pour être dans une musique, pour pouvoir continuer les cours. Et comme ça, je me suis retrouvé à Versailles. Je pouvais prendre les cours à Paris, continuer à travailler. Et puis, j'ai fait des rencontres comme Henri Texier, que je connaissais un peu dans les clubs, mais que j'ai rencontré à l'armée, tromboniste Jacques Bolognesi, beaucoup d'autres musiciens. Un percussionniste qui s'appelait Marc Chantreau. Il y avait des clarinettistes aussi qui jouaient plutôt un peu la musique de la Nouvelle-Orléans, de Dixieland. C'était quand même une ambiance musicale avec des gens assez ouverts. C'est-à-dire que j'appréhendais de faire mon service militaire en passant 16 mois uniquement avec un fusil. Malgré tout, ça a été quand même une continuité. Donc je suis assez d'accord avec ces trois, disons, motivations.
Comment ça se passait quand vous étiez enfant à la maison, justement? Quelle place avait la musique?
J'en écoutais pas beaucoup à la maison, parce que déjà mon père n'avait même pas un électrophone à l'époque, ça s'appelait les électrophones. Bon, il avait quelques 45 tours, 78 tours, mais on ne pouvait pas tellement les écouter. C'est un ami d'enfance qui avait un électrophone. Donc comme lui, il y avait des grands cousins qui écoutaient de la bonne musique. Et j'allais chez lui souvent et c'est là que j'ai commencé à vraiment l'écouter. Mais disons que mon père, lui, tout ce qu'il voulait, c'est m'apprendre à jouer de la trompette. Parce qu'il avait une harmonie. Il voulait que je joue avec lui. Bon. Et voilà, j'ai commencé un peu comme ça.
Vous êtes musicien à deux titres, en tant que trompettiste et puis aussi en tant que percussionniste. Les percussions, c'est arrivé quand ?
Ben les percussions, c'est arrivé assez tard, disons, vers l'âge de 19 ans. J'ai toujours aimé les percussions, mais j'en écoutais j'ai eu un choc une première fois quand j'ai écouté un disque, un album de Tito Puente avec Mongo Santamaria. Plusieurs percussionnistes, ce disque s'appelait Top Percussion, c'est vraiment... C'est comme si ça a été une révélation pour moi. J'avais l'impression qu'en écoutant ça, que je jouais avec eux en même temps. Et si bien que quand j'ai continué à jouer de la trompette, à étudier la trompette, j'avais en même temps cet amour des percussions. Et je crois que finalement, ça a pris presque le dessus.
Quand vous étiez en France, donc... entre le service militaire et puis le milieu des années 70, quelle était votre relation avec la Martinique, à la Martinique ?
Ben, effectivement, à cette époque, quand on partait en France, on ne revenait pas tellement parce que les voyages étant très chers. Je suis revenu au bout de 5 ans, une fois passé les vacances. Mais c'était très difficile de revenir. C'était à une époque d'ailleurs où il y avait deux moyens de transport. C'était le bateau qui prenait 12 jours et l'avion. Et l'avion, c'était excessivement cher. C'était vraiment les gens qui avaient de gros moyens qui prenaient l'avion. Moi, je m'étais dit, bon, j'espère retourner un jour. Si bien que je n'avais pas tellement de contacts. Bon, j'écrivais à mes parents. Ou je voyais dans quelques Antilles, des copains qui étaient partis en même temps que moi pour faire de la musique aussi, pour étudier de la musique. Mais c'était des amis qui n'avaient pas tellement l'amour du jazz. Au bout d'un moment, quand je jouais avec eux, ça tournait en rond, quoi, sous deux ou trois accords. Et bon, je trouvais que c'était un peu une rengaine. Ou bien sinon, il y avait des balles antillais dans les mairies à Paris. J'allais comme ça, bon, je voyais des Antillais pour ne pas perdre un petit peu les racines. Mais au bout d'un moment, musicalement, comme j'avais déjà découvert le jazz, ça ne me parlait pas autant, quoi. J'ai laissé ce milieu, j'ai commencé à fréquenter les clubs. J'ai rencontré des musiciens, dont un bassiste qui s'appelait Jackie Sanson, qui jouait avec Georges Avanitas et Charles Saudret. Et un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un chanteur qui avait besoin de percussionnistes. Est-ce que ça m'intéressait? Donc je suis allé. C'était dans un studio, je crois au studio d'Avou. Je me suis retrouvé avec deux contrebassistes, Jacques Vidal et un autre contrebassiste. Donc avant de rencontrer le chanteur, il n'était pas encore arrivé. On a fait un petit bœuf et puis j'ai dit tiens, ben, c'est super, c'est la première fois vraiment que je joue du jazz mais avec deux contrebassistes. Et c'est parti de là, quoi. Jacques Vidal m'a dit qu'il était dans un groupe qui devait faire la première partie de Georges Brassens à Bobino, qui s'appelait Les Enfants Terribles. Enfin, il accompagnait. Donc, il m'a invité. Comme il cherchait un percussionniste, ça s'est fait comme ça, et puis ça s'est enchaîné. Et puis, bon, j'ai rencontré Christian Vander. J'étais de Magma pendant un moment. Après, j'ai joué avec Brigitte Fontaine, Catherine Ribeiro. Bon, je faisais aussi beaucoup de studios avec des gens. Bon, j'ai un petit peu oublié les noms. Et puis, j'ai rencontré aussi le trompettiste Sonny Gray, qui avait un big band, qui m'a invité à faire des concerts avec lui, et une télé notamment, où je me suis retrouvé avec beaucoup de grands musiciens que je connaissais de nom. Et ça s'est enchaîné comme ça. J'ai joué aussi avec des saxophonistes comme Hank Mobley, Robin Kenyatta, Jean-Luc Ponty aussi une fois. Et puis, bon, beaucoup d'autres aussi. Frank Foster, Jimmy East, Art Farmer, que j'aimais bien, qui m'aimait bien aussi. Donc tout ça, ça m'a un petit peu redonné confiance en moi. Disons qu'après Magma, ça a été plutôt du jazz ou des choses comme avec Brigitte ou des choses comme ça.
Cette époque aussi, c'est une rencontre avec un autre continent, avec l'Afrique. Vous allez en Afrique du Nord en tout cas, avec Robin Kenyatta. Vous vous rappelez de vos premiers pas sur ce sol nord-africain?
Eh bien, c'est vrai qu'avant, il y avait un grand festival qui avait été créé à Alger, où il y avait beaucoup de musiciens américains, de français, qui participaient à ce festival. Et moi, je rêvais d'y aller. Et Robin Kenyatta m'a proposé d'aller faire une semaine dans des concerts. Donc, je suis parti avec lui. Et c'est vrai que c'était pour moi une découverte. Le monde arabe, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, évidemment, mais... pour moi, c'était vraiment bon. C'est vrai que de par les instruments de percussion, j'étais toujours attiré par l'Afrique. Et le Maghreb, c'était déjà aussi, c'est aussi l'Afrique. Donc, ça m'a beaucoup touché. Tunisia.
En 1974, je le disais tout à l'heure, vous retournez en Martinique. Pour quelle raison?
Disons que justement, après Je suis parti pendant un an faire un voyage un petit peu. J'étais un peu fatigué de la vie parisienne. Et je suis parti avec la mère de ma fille, un petit peu voyager. On a fait l'Espagne, l'Italie, enfin pas mal de pays, la Turquie. Et puis on est revenu, on est resté au Maroc pendant 3 mois. Et de là, j'ai rencontré Alain Jean-Marie, Jean-Claude Montredon et des musiciens. Finalement, ils cherchaient un percussionniste qui les avait laissés. Donc c'est reparti, je suis reparti dans la musique. Et c'est vrai, à force d'entendre parler le créole... parce que c'est vrai, j'étais un peu coupé de un peu de mes racines, donc d'avoir entendu tous les gens qui parlaient comme ça, ça m'a redonné envie de repartir. Mais comme j'habitais Paris, donc je suis rentré. Et c'est vrai que dans ces pays-là, il y a un autre rythme de vie qui est un petit peu plus calme que Paris. Donc je me suis dit, mais j'ai l'impression que si je reviens, je recommence les mêmes choses. Alors je suis parti en Martinique et puis. Finalement, je suis resté parce que c'était une redécouverte de mon pays. Je voyais ça avec des yeux différents.
Il y a des choses, donc, par exemple, dans la musique, des rythmes, des choses, des façons de jouer que vous ne connaissiez pas. Et en 1974, vous les découvrez à ce moment-là,
quoi. Oui, oui. Disons que quand j'étais tout jeune, il y a un rythme qui s'appelle le damier. C'est avec le tambour traditionnel de la Martinique. Et ça se jouait bon, à Fort-de-France dans certains quartiers, mais aussi dans les communes. Et la commune d'où je viens, c'était une commune où le damier, c'était vraiment réputé. C'était vraiment les meilleurs qui jouaient là. Mais ça, au fait, c'est une lutte. Maintenant, c'est interdit, mais à l'époque, ce n'était pas encore interdit. Mais il y avait un tambour et deux personnes mesuraient leur force au son de la musique. Il y avait des parties un peu dansées avant d'entamer la lutte. Mais je ne connaissais pas le vrai... enfin, à part le damier, du damier était issu des rythmes traditionnels de la Martinique comme le belay, le belilla, enfin, qui a 3 temps, et beaucoup d'autres dérivés de... Et les danses aussi, j'avais vraiment vu une seule fois un groupe qui était passé dans ma commune faire un spectacle. Et là, j'ai découvert quand même toutes ces danses, et pour moi, c'était assez magique. Et quand je suis revenu, justement, Aimé Césaire, il a impulsé une dynamique culturelle en ouvrant un grand centre culturel dans un parc floral. Comme j'étais là, on m'a proposé d'accompagner des cours de danse contemporaine, moderne, et puis de donner des cours de percussion. Alors finalement, comme ça me touchait parce que c'était une forme de militantisme culturel aussi, parce que la population n'avait pas tellement accès aux concerts. Les concerts, c'était plutôt des concerts classiques, réservés à une élite, ou de temps en temps, des chanteurs qui venaient. Tandis que lui, dès qu'il a créé ce centre, il a créé un festival chaque année. Et des groupes, soit de musique ou de théâtre, de danse, venant de l'étranger, et aussi des choses martiniquaises traditionnelles, ont été mis en valeur. Ça m'a quand même parlé, concerné. Et disons que j'ai adhéré à ce côté... militantisme culturel, donc c'est pourquoi je suis resté et puis finalement les années passent et puis on reste mais quand même j'ai toujours quand même de temps en temps voyagé aussi soit dans la Caraïbe ou en France aussi plusieurs fois en venant jouer avec des groupes. Festival de jazz d'Angoulême qui à un moment était un festival de jazz. Bon, il y avait un club qui s'appelait la Chapelle des Lombards où je tournais avec un groupe, disons, de musique, mais pas vraiment commercial, hein, mais entre le commercial et des choses un petit peu plus progressistes. Je jouais la trompette et les percussions, donc j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup avec ce groupe.
Et quand vous avez formé le Paco Charlieri Quintet, vous l'avez fait pour quoi ? Pour jouer votre musique, vous qui aviez... était une sorte de nomade pendant toutes ces années, allant d'artiste en artiste, de groupe en groupe.
Je pense qu'à partir d'un moment, j'ai eu envie de monter un groupe parce que en Martinique, je sentais qu'il y avait des clans musicaux. Il y avait des musiciens que j'aime beaucoup qui jouaient, mais il n'y avait pas d'ouverture, ils jouaient seulement qu'avec les mêmes personnes. Donc finalement, moi je me retrouvais à jouer dans des groupes de musique commerciale, de variété, disons. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, donc le jazz est revenu. Était là un petit peu sous-jacent, mais c'est revenu. Et finalement, je me suis dit, la seule façon d'en jouer régulièrement, c'est de monter une formation. Donc il y a un organisateur qui avait créé un festival de jazz qui s'appelait Jazz à la Plantation. Il faisait venir des groupes d'ailleurs, soit des États-Unis ou des Français, ou des Caribéens. Donc finalement, il m'a proposé, il m'a dit, tiens, si tu veux monter une formule. Donc j'ai monté la formule, c'était pour le festival. Et entre-temps, je me suis dit, tiens, il y a le Festival de Fort-de-France aussi. Il y a deux clubs qui peuvent accepter notre groupe. Donc, on a fait pendant une semaine au moins 5 ou 6 concerts. Et après, je me suis dit, ce serait bête de monter une formation comme ça. Pourquoi ne pas la continuer? Donc, j'ai un club qui m'a proposé de jouer une fois par semaine pendant 6 mois. C'était aussi une motivation pour les musiciens. Et puis ça continue comme ça, et j'avais commencé un peu à composer de la musique. Je me suis dit, tiens, mais c'est une occasion aussi de pouvoir jouer mes compositions. Et puis des choses que j'ai envie de jouer, quoi, dans le jazz. Et des morceaux de Wayne Shorter, différents musiciens, de Miles Davis. Ça a grandi, et puis c'est vrai que ça fait maintenant quand même 12 ans que le groupe existe.
Au-delà de sa capacité à bien jouer de la musique, qu'est-ce que c'est pour vous la qualité d'un groupe ?
C'est d'avoir une cohésion et que tout le monde est à l'écoute et qu'on fasse quelque chose pour la musique avant tout. Parce que quelquefois, il y a des musiciens qui ont joué dans le groupe. Au bout d'un moment, on sentait que c'était leur propre ego qui voulait mettre en avant. Tandis que les autres, on était là pour jouer la musique ensemble. C'est un partage. Donc, pour moi, un bon groupe, ce sont de bons musiciens déjà, qui ont un niveau. Et puis des gens qui veulent jouer ensemble, qui s'écoutent aussi, pour que ça ne devienne pas le truc un peu carré. On joue le thème, on improvise, on joue le thème. Pour qu'il se passe des choses, il faut qu'il y ait des complicités.
Ce que vous venez de dire, c'était évident pour qui vous écoutez et vous regardez tout à l'heure, parce que vous avez joué avec Bernard Lubat, là on est à Uzest. Moi, si on me demandait d'écrire votre façon de jouer, je dirais peu de gestes, des regards et beaucoup de musique.
Oui. Au fait, c'est ça. C'est-à-dire que je me sers des congas comme si c'était une batterie, mais avec un développement mélodique aussi. Le rythme est toujours là, mais je ne veux pas jouer simplement pour être comme un teneur de tempo, quoi. C'est-à-dire que je veux jouer avec Bernard, le pianiste, donc qu'il se passe quelque chose d'après son phrasé, que je lui réponde, que lui aussi qui me répondent. C'est-à-dire que je veux trouver un chant, le chant. Ce qui est plus difficile dans les percussions, c'est de ne pas jouer forcément de la percussion dans le sens où il faut percuter. Il n'y a pas que ça seulement. Il y a vraiment trouver le chant de l'instrument avec plusieurs sons différents, puisque là j'avais 4 congas, une paire de bongo. Mais pour pouvoir jouer avec le musicien avec qui je joue, pouvoir apporter en dehors du côté rythmique un côté musical quand même.
Alors lui, c'est Paco Charléry, c'est un copain de la Martinique qui commence à devenir un habitué du Zest, et moi je deviens un habitué de la Martinique, ce qui fait qu'on se voit assez souvent et que on n'a pas fini de boire des rhums. Mais comme pour être bien à deux, on va jouer le morceau d'un troisième, une chanson d'Eddie Lewis. Thank you.
je suis très heureux parce que c'est ce que j'arrivais à développer. Et c'est vrai qu'en Martinique, c'est plus difficile de faire. Bon, j'essaie de le faire avec mon groupe, mais c'est difficile de le faire avec d'autres musiciens parce que on retrouve pas ce partage que j'ai avec Bernard ou d'autres Eddy ou les autres musiciens qui jouent. C'est-à-dire qu'on est sur un groove, on joue ensemble, on cherche à se rapprocher, à s'écouter, permettre à l'autre de jouer aussi, tout en et réciproquement aussi. Mais c'est vrai qu'en Martinique, malheureusement, les musiciens ils sont assez individualistes. Donc ils pensent que souvent, il y a de très bons musiciens, mais ils pensent que s'ils m'invitent pour jouer avec eux, on peut se retrouver à faire un bœuf, comme ça m'est déjà arrivé avec des musiciens assez connus. Et puis, ça se passe très bien. Mais ce n'était pas dans un domaine officiel, quoi, ou un concert. Donc, sur le moment, oui, on va faire des choses. Et puis, ça reste au stade des paroles. Mais j'ai compris que eux, ils sont toujours dans un esprit de « Ah, si je prends ce gars-là, il va me faire de l'ombre. » Alors que moi, je ne joue pas la musique dans cet esprit-là. Je joue la musique avec... pour partager, pour communiquer, pour échanger quelque chose. C'est pas pour, c'est pas le succès qui m'intéresse. C'est déjà apprécié, ben c'est bien. Le message est passé. Mais avant tout, c'est ça. Je n'ai pas d'avoir d'écraser l'autre personne avec qui je joue. Et je pense que c'est le but de la musique.
C'est aussi pour ça que vous chantez, vous dansez, parce que c'est une des manières de vraiment partager quelque chose avec le public.
Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'aime faire taper les gens dans les mains, parce que je trouve aussi qu'il faut que les gens se sentent aussi, ne restent pas. Il ne faut pas qu'il y ait une distance trop entre le public et nous. Il faut que le courant passe et que je peux retrouver, parce que j'ai joué beaucoup de musique dans des bals, pour danser. Et j'ai quand même gardé ça. Et je veux intégrer ça dans le jazz, parce qu'au début, le jazz, c'était une musique de danse. Mais de plus en plus, les gens ont beaucoup intellectualisé le jazz, si bien que ça a créé... on s'est éloigné un petit peu du swing, même quand il y a des silences. Hein. Beaucoup de musiciens de jazz ont eu un complexe vis-à-vis de la musique classique, donc ils ont voulu jouer un rôle... Nous sommes musiciens, vous êtes le public, vous écoutez, puis vous allez au concert, et ça devient un peu trop stiff, quoi. Et moi, je suis plutôt du jambon vivant, que tout le monde participe, si ça swing. Mais je crois aussi parce que j'ai fait d'autres musiques, par exemple du rhythm and blues, du soul music, la soul music, la musique africaine, des musiques qui sont liées à la danse.
Vous êtes né sur une île, hein, et on parle souvent de... l'insularité, est-ce que pour vous, ça évoque quelque chose, ça veut dire quelque chose
Oui, l'insularité a des limites aussi. Parce que c'est vrai que quand on est entouré d'eau, que les distances sont longues, sont grandes par rapport aux États-Unis, la France, l'Europe, bon, même la Caraïbe aussi, c'est parce que les conditions de transport ne sont vraiment chères pour aller à Trinidad, alors c'est parfois plus cher aller à Trinidad qu'aller en France pendant un moment. C'est vrai que malgré tout, pour faire des rencontres, c'est quand même difficile. C'est seulement quand il y a des musiciens qui viennent en Martinique qu'on peut quelquefois échanger, ou bien quand on est invité en Europe, où on rencontre d'autres, comme par exemple Uzest, où on rencontre d'autres musiciens, donc ça fait plaisir.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'habiter une île ? Dites-nous ça à nous qui sommes essentiellement là, des continentaux.
Oui, de notre côté, il y a aussi la qualité de la vie. Et puis je pense que le fait d'habiter en Martinique, ça m'a donné beaucoup reposer l'esprit pour pouvoir en créer, avoir un jeu même. Le fait qu'on soit peut-être éloigné de beaucoup de musiciens qui... peut-être qui ont l'habitude de jouer souvent, mais nous on crée ce monde de notre imaginaire Et finalement, on peut avoir le temps de... Parce que la vie est moins speed. Donc on a le temps de pouvoir développer des choses, quoi, des... et puis de travailler, de composer. De... Bon, entre-temps, j'ai appris à jouer du piano. J'étudie l'harmonie, bon, j'étudie la batterie. Enfin, je continue à travailler la trompette. Pourquoi ? Parce que j'ai eu plus l'esprit libre pour faire tout ça. C'est vrai, bon, quand je vais sur une plage, bon, ça m'inspire. Il y a un côté l'espace aussi. Bon, je veux dire que c'est pas seulement ça. C'est-à-dire c'est mon vécu aussi, plus ça avec la nature. Rien que de voir la mer, des montagnes, le ciel bleu, le soleil, tout ça. Les gens qui marchent dans la rue, le marché, côté quand même authentique qui reste toujours, ça m'inspire beaucoup.
Vous vous sentez libre ou alors peut-être plus libre que quand vous aviez 20 ans
Maintenant?
Oui.
Oui, beaucoup plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes techniques dans la musique que j'ai résolu depuis. Et c'est vrai que je me dis, c'est plus on travaille, plus on devient libre. Donc maintenant, avant, effectivement, j'étais toujours... même si des gens me disaient, ouais, tu joues bien, mais enfin, c'est avec moi-même, au fond, on ne peut pas se mentir. Bon, même si je jouais, mais je n'étais pas satisfait. Tandis que là, maintenant, je suis satisfait, mais enfin, quoi que j'étudie toujours, hein. Mais au moins, je peux apporter ma pierre à l'édifice musical. Et puis les rencontres aussi. Donc, ça se fait, j'ai envie que, de multiplier ces aventures.
On écoute maintenant un nouvel extrait d'une conversation musicale entre Paco Charléry et Bernard Lubat sur un morceau d'Eddie Lewis, enregistré le 21 août 2005 au Festival du Zest, déplacé à Villandreau.